Mais d'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Terminé l'abondance, Emmanuel Macron l'avait prédit en août dernier. Cette fois, le gouvernement passe à l'action. Elisabeth Borne présente cet après-midi son plan de sobriété énergétique. Objectif, faire baisser la consommation française globale de 10%. En clair, Europe 1 vous le dévoile ce matin. Dans les administrations, dans les entreprises et à la maison, bien sûr, il faudra faire des économies. Bonjour Baptiste Morin.
Bonjour.
Journaliste au service économie d'Europe 1, vous avez eu accès aux grandes lignes de ce plan de sobriété. Tout le monde devra faire des efforts et c'est l'État qui va donner l'exemple.
Oui, l'État devra être exemplaire. Par exemple, les bureaux publics seront chauffés à 19 degrés maximum. La consommation d'eau chaude y sera rationnée. Des travaux énergétiques devront être menés dans les bâtiments publics. Dans leurs déplacements professionnels, les agents de l'État devront limiter la vitesse de leurs véhicules de fonction à 110 km/h sur l'autoroute et leurs voyages en avion devront eux être remplacés par le train si une alternative de moins de 4 heures de trajet existe. Enfin, les agents de l'État seront aussi incités à faire du télétravail. Voilà comment l'État compte réduire sa consommation de 10%.
Alors Baptiste, que prévoit le plan maintenant pour les entreprises ainsi que pour les établissements qui reçoivent du public ?
Rien de contraignant pour les entreprises. Le gouvernement veut les inciter à suivre le modèle de l'État. Pour les établissements qui reçoivent du public, c'est plus précis. Les commerces sont par exemple invités à réduire leur éclairage. Les hôtels sont invités, eux, à baisser la température des piscines intérieures et extérieures d'un degré. Les domaines de ski vont adapter la vitesse des télésièges à la fréquentation et les stades de football ou de rugby devront être éclairés moins longtemps avant et après les rencontres.
Mais pour les particuliers, pas d'obligation, mais un appel au civisme de chacun et des conseils.
Et un slogan, je baisse, j'éteins et je décale. Ce sera la campagne du gouvernement à partir de lundi. Décaler la période de chauffe par exemple, la débuter plus tard et l'arrêter plus tôt. Éteindre les appareils qui ne sont pas utilisés ou qui restent en veille. On a tous en tête l'exemple des box internet. Et enfin, baisser la température du chauffage à 19 degrés dans les pièces principales, 17 degrés dans les chambres et puis baisser la température du chauffe-eau à 55 degrés.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Nous sommes nombreux donc à devoir faire des efforts. Certains, en revanche, avaient déjà adopté la bonne attitude. Exemple à Grenoble, au siège de la société Schneider Electric. Depuis 2 ans, il est installé dans le bâtiment le plus performant du monde en matière de consommation d'énergie. Un immeuble référence qu'a visité Jean-Luc Boujon pour Europe 1.
C'est un bâtiment de 26 000 m² aux murs dorés, aux parois vitrées, pouvant accueillir 1500 salariés. Un immeuble intelligent et vertueux qui, par exemple, régule lui-même la température intérieure et l'éclairage, explique Fabienne depuis 16 ans chez Schneider Electric.
Ça détecte les présences. S'il y a des présences, ça chauffe et puis ça s'éclaire. Et s'il n'y a pas de présence, ça s'éteint. Et pareil, on a des prises qui fonctionnent que la journée. Pour nous, c'est super parce que tant qu'on est là, on se branche, puis voilà. Et la nuit, en fait, il n'y a pas du tout de consommation.
Un bâtiment qui produit lui-même son électricité, détaille Alexandre.
Il y a des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment D là-bas, des éoliennes aussi au niveau du parking de ce côté-là, qui alimentent une grosse partie du bâtiment.
Mais il y a encore plus fort pour Mathieu, très fier de travailler ici.
Une des améliorations qui est vraiment très impressionnante, c'est la peinture du bâtiment, qui en fait est thermochangeante, c'est-à-dire qu'elle va changer de couleur en fonction de la température qu'il fait dehors, pour refléter plus ou moins la lumière, et du coup récupérer la chaleur qu'on a du soleil, pour essayer de chauffer le moins possible en hiver. Moi je suis très fier du coup de pouvoir travailler là tous les jours. Ça montre aussi que c'est possible de allier le confort, la modernité et puis d'être respectueux de l'environnement.
Un bâtiment qui est devenu la vitrine technologique de l'entreprise et une référence mondiale en matière de performance énergétique. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et bien sûr, sur le site europe1.fr, vous pouvez retrouver tous les détails de ce plan qui sera présenté cet après-midi par Elisabeth Borne.
La version non définitive, on le précise, parce qu'évidemment, ça va bouger jusqu'au dernier moment.
Évidemment. Il est 8h04 sur Europe 1. Dites, Dimitri, au cinéma, vous êtes plutôt Simone Veil, Petit Nicolas ou Revanche des humanoïdes?
Ah, les humanoïdes, ça me tente bien.
Ce sont tous des films.
Petit Nicolas, tiens, ouais, si c'est bien.
C'est vrai que c'est pas mal. Ça sort mercredi prochain. Cela dit, on se pose la question ce matin sur Europe 1. Le public sera-t-il au rendez-vous? En septembre, les cinémas ont enregistré leur plus faible taux de fréquentation depuis 1980. Il faut dire que la crise sanitaire et la concurrence des plateformes de streaming ne leur ont pas fait de cadeau, ce qui menace la santé économique des salles obscures. Margot Fodéré.
Seulement 105 millions de spectateurs se sont rendus dans les salles de cinéma depuis le début de l'année, un chiffre en baisse de 30% par rapport à 2019 et qui s'accompagne d'une diminution de leur chiffre d'affaires, 742 millions d'euros depuis janvier contre 1,5 milliard pour une année normale. Alors certes, il reste 3 mois avant la fin de l'année, mais on est quand même loin du compte, et ce alors même que le ticket de cinéma en France est souvent moins cher que dans d'autres pays européens, 7,07 € contre 9 € en Italie et même 12 € en Allemagne. Le problème, c'est que les Français ont l'impression de payer trop cher, selon Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français.
Moins de 15% des spectateurs payent le tarif le plus cher dans un cinéma. Vous avez en France des gens qui payent le cinéma moins de 4 euros la place de cinéma. Les gens ne regardent que le prix le plus cher.
À la frilosité des spectateurs s'ajoute l'envolée de la facture énergétique qui peut représenter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires de certaines salles et le coût de la modernisation des projecteurs jusqu'à 50 000 euros par salle.
Margot Faudéré.
Europe 1 8h06, elle est arrivée en France lundi matin avec ses deux enfants. Ce matin sur Europe 1, on en sait un peu plus sur cette nouvelle djihadiste franco-marocaine rapatriée de Syrie.
Oui, placée en détention provisoire et mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. William Molinier, vous avez enquêté, vous nous révélez ce matin sur Europe 1 qu'elle est aussi la veuve d'un djihadiste français bien connu.
Oui, cette franco-marocaine est la femme de Romain Letellier, surnommé Abou Siyad en Normandie. Ce converti à l'islam originaire du Calvados est considéré comme le tout premier cyber-djihadiste français à avoir comparu devant un tribunal. C'était en 2014, il était alors l'administrateur du forum Ansar Alak, un des rares sites de propagande djihadiste accessible à l'époque en français. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme pour apologie d'actes de terrorisme. Puis il est sorti de prison après son incarcération. En 2015, il rejoint la zone irako-syrienne avec sa femme et son enfant. Romain Letellier était chargé de la propagande de Daesh sur les réseaux sociaux. Il aurait été tué par des frappes de drones américains. À son arrivée sur le sol français, sa femme a été remise entre les mains de la DGSI. En 2013, elle expliquait à nos confrères de Ouest-France qu'il n'y avait qu'un seul islam. L'islam modéré ne veut rien dire, ce sont des hérétiques. Fin de citation. Sa garde à vue peut durer jusqu'à demain soir.
William Molinier.
Et puis à Paris, après le démantèlement hier matin d'un campement de consommateurs de crack dans le 19e arrondissement. 800 policiers sont toujours mobilisés.
Leur mission, s'assurer que les craqueux ne se réinstallent pas dans le secteur. Bilan de l'opération hier, 52 sans-papiers placés en centre de rétention administratif, 63 personnes mises à l'abri, 39 interpellations et 5 toxicomanes particulièrement dépendants qui ont été hospitalisés.
Place au sport, les Jeux Olympiques de Paris 2024, ça se précise.
Oui, on connaît depuis hier le parcours du marathon qui terminera les Jeux, un tracé qui s'annonce comme l'un des plus dur jamais proposé aux athlètes olympiques, Axel May.
Oui, par sa longueur, 42 km 195, le marathon est déjà une épreuve épuisante. Mais en principe, les parcours sont plus ou moins plats. Fidèles à leur volonté d'innover, les organisateurs des Jeux de Paris proposent, eux, un tracé très difficile avec deux belles côtes, l'une à Versailles, l'autre à cheval sur les municipalités de Chaville et Meudon, plus de 400 mètres de dénivelé positif et autant en descente. Johan Durand est l'un des meilleurs marathoniens français.
Des marathons comme ça, il n'y en a jamais eu. Même au JO d'Athènes en 2004, avec Athènes qui a même une ville vallonnée, il n'y avait pas autant. Donc c'est atypique, ça s'est jamais vu, c'est quelque chose de chouette.
Le patron des Jeux de Paris, Tony Estanguet, savoure le choix de ce parcours.
On a discuté aussi avec les athlètes, parce que pour eux c'est une difficulté supplémentaire, mais c'est un marathon où il y aura du suspense, qui sera très spectaculaire et qui va aussi valoriser cette discipline.
À la notion sportive s'ajoutera une notion symbolique, puisque pour la première fois de l'histoire de l'olympisme, les épreuves féminines et masculines du marathon vont permuter, les femmes courront le dernier jour des Jeux, le dimanche 11 août 2024, quelques heures avant la cérémonie de clôture.
Axel May du service des sports d'Europe 1. Autre nouveauté, des amateurs pourront emprunter soit le parcours complet de ce marathon, soit un parcours réduit de 10 km. Environ 37 000 dossards sont à gagner en s'inscrivant sur le site des Jeux de Paris. Je sens que ça vous plaît ça, Dimitri. Je vous vois bien faire le marathon.
Oui, plutôt les 10 km que les 42. Je vous avoue, je n'ai jamais tenté 42. Je pense que je ne terminerai pas. Je pensais que je vais mourir peut-être même. C'est fort probable. Tiens d'ailleurs, à propos des Jeux Olympiques, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO de Paris 2024, est ce soir de 20h à 20h30 l'invité de Virginie Fulpin et Jacques Vendroux dans Europe 1 Sport, dans le cadre des décideurs du sport. Tous les dossiers chauds des Jeux Olympiques, sujet de la sécurité aussi très très important, seront sur la table.
Merci beaucoup,
à vous. Fanny, à demain. Dans un instant, Philippe Devilliers est l'invité de Sonia Marouk sur Europe 1.
Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1.